L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet et Sophie Bernard.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Vous le savez, Radio Patrimoine, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, immobilière. D'habitude, pour présenter cette émission, je suis en compagnie de Sophie Bernard, qui se débat toujours avec un méchant petit virus. On l'embrasse bien fort et on lui souhaite un prompt rétablissement. Alors, qu'est-ce qui nous attend au sommaire de cette édition, avancée exceptionnellement à 9h30? Eh bien, on va parler formation. Plus que jamais, l'univers du conseil en gestion de patrimoine, on le sait, doit s'adapter. Comment attirer, garder des clients de plus en plus experts, autonomes, exigeants? Comment proposer des conseils en phase avec les nouvelles aspirations? Aujourd'hui, deux références françaises de la gestion de patrimoine, Loreppe et Fidroit, sont à l'initiative d'une nouvelle offre de formation qu'on va décrypter ensemble. On a le plaisir d'accueillir Catherine Orlac, la présidente de Loreppe. Bonjour Catherine.
Bonjour Fabrice.
Et Olivier Rosenfeld, le président de Fidroit. Bonjour Olivier.
Bonjour Fabrice.
Voilà, ensemble vous allez nous présenter ce nouveau parcours diplômant, à qui il s'adresse, quels sont les débouchés, à quelles problématiques ils répondent, pourquoi on a cette offre de formation, est-ce qu'il y a une demande forte de la part des banques. Merci à Sophie Bernard qui a préparé cette émission et que j'ai le plaisir d'animer l'Hebdo Patrimoine. C'est parti.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Alors messieurs, dames, pour ceux qui ne connaissent pas encore vos vénérables établissements, on va se présenter en quelques mots. On commence avec vous, Catherine. Est-ce que vous pouvez nous présenter Loreppe?
Avec plaisir. Alors Loreppe, c'est un organisme de formation professionnelle dédié à la gestion de patrimoine qui a été créé il y a 25 ans par Jean Lanier. Ça a été un des tout premiers organismes de ce type qui a été créé en France. Notre métier, c'est essentiellement de proposer de la formation diplômante à tous les professionnels de la gestion de patrimoine. On a actuellement 6 diplômes avec différentes spécialités, hein, toujours dans ce domaine-là, qui compte aujourd'hui parmi les meilleurs au niveau national. On propose également la formation non diplômante, donc là c'est vraiment des formats plus courts, ça peut être des formats à la journée ou sur 2 ou 3 jours, même des petites conférences de quelques heures. Donc là en général c'est de la formation qui est vraiment calibrée sur mesure à la demande de nos clients ou de nos partenaires. Et puis on a une troisième activité qui est aussi une activité de recherche. On a toujours eu c'est un peu ça dans notre ADN. On mène régulièrement des sujets de réflexion sur des thèmes scientifiques et qui nous amènent à que l'on publie sur notre site ou
D'accord, publication également. La formation, Catherine Namo, c'est quand on entend formation, on pense aux étudiants sortis d'école. Là, c'est aussi et surtout de la formation diplômante. Enfin, c'est-à-dire continue pour les gens beaucoup plus seniors ou qui sont en reconversion.
Absolument. Donc, on fait que de la formation professionnelle. On ne reçoit pas d'étudiants ou alors ils sont très à la marge. On s'adresse effectivement aux professionnels de l'AGP. Donc, ça va être essentiellement des collaborateurs d'établissements financiers ou assurantiels, des conseillers indépendants, bien sûr. Et puis, on a aussi pas mal de professionnels du droit et du chiffre, notaires, avocats, experts comptables. Et puis, à la marge, on a quelques personnes en reconversion, comme vous le disiez à l'instant.
Ouais, on va y revenir. Dernière question, l'emplacement géographique, pour ceux qui sont intéressés, qui sont en train de se poser des questions.
Alors, le REP, c'est à Clermont-Ferrand. On a un ancrage régional fort, bien que notre rayonnement soit national, puisqu'on a délocalisé nos formations partout en France, dans 6 sites différents aujourd'hui. Mais notre siège est à Clermont et on a vraiment un attachement fort à ça.
Très bien. On passe à Olivier Rosenfeld, le président de Fidroit, habitué des antennes de Radio Immo et Radio Patrimoine. Olivier, on représente Fidroit d'un mot.
Alors Fidroit, c'est un groupe de chercheurs et de praticiens en conseil patrimonial, plutôt d'ailleurs dans son acception juridique et fiscale. Et notre objectif et notre tâche au quotidien est de développer des outils, des services, tant en matière de formation, de documentation, de consultation, par l'entremise d'ailleurs du digital aussi bien que par l'intervention humaine, à destination des professionnels du patrimoine, en vue de leur permettre de développer de nouvelles prestations et d'avoir, je dirais, un nouvel essor commercial. En réalité, dans notre positionnement de marque, nous sommes très attachés au comment, à la mise en œuvre. Il ne s'agit pas uniquement de procéder à un enrichissement intellectuel des professionnels, mais surtout de voir comment demain le client final, celui qui est en bout de chaîne, sera mieux traité et qu'il puisse accéder aux nouvelles compétences de ces professionnels pour lesquels, je n'ai pas faiblesse de le penser, nous irons contribuer.
Emplacement géographique, vous êtes chez Fidroit, ça se trouve où ?
Alors historiquement, comme Catherine, puisque nous avons des racines communes à Clermont-Ferrand, mais aussi un bureau parisien qui nous permet d'être proche des centres de décision, et puisque vous aviez la courtoisie de rappeler que j'ai déjà foulé votre studio, c'est vrai que ça nous permet d'être proche aussi de la presse avec laquelle nous collaborons de manière très récurrente, puisque nous sommes sollicités pour avoir quelques-unes de nos réflexions dès lors que les textes évoluent, que ce soit d'origine jurisprudentielle, doctrinale, législative. Nous savons que nous sommes face à une instabilité textuelle, oui. Et il est toujours important pour nous de rester en connexion avec les journalistes.
Alors, on a compris, hein, ce n'est pas qu'une proximité géographique qui vous réunit. En tout cas, Catherine, vous avez lancé, vous appelez plus qu'une collaboration, un collaboratoire. Hein, c'est une nouvelle formation diplômante. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette alliance novatrice ?
Oui, alors c'est vrai que ça fait quelques temps maintenant qu'avec Olivier, on se rencontre régulièrement pour discuter un peu des choses qui nous rassemblent. On a quand même un ADN commun assez fort et on s'est rendu compte, mais on s'en rend tous compte, que le métier évolue très vite depuis quelques temps. Les exigences des clients sont aujourd'hui très fortes en termes de conseils, parce qu'on a affaire à un client qui est de plus en plus sophistiqué et, je dirais, à des problématiques patrimoniales qui sont vraiment de plus en plus complexes. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, notre rôle en tant qu'organisme de formation, c'est de les accompagner pour qu'ils soient capables justement de bien répondre à ces nouvelles problématiques patrimoniales. Il nous est apparu très vite, avec Olivier, assez naturel, de proposer du coup une formation diplômante commune pour pouvoir répondre à ces nouveaux besoins. Alors, dans un premier temps, je rentre dans le détail, hein, Fabrice, hein, de cette formation. On va proposer une formation donc à destination des collaborateurs des banques et des compagnies d'assurance, une formation diplômante qui va se dérouler, qui a été pensée sur 2 ou 3 ans et qui va se dérouler avec 2 cycles de diplomation différents. Alors, ça se déroule de la manière suivante. On a un premier cycle de formation qui est destiné aux collaborateurs qui ont un bac plus 2 ou quelques années d'expérience. Et là, ce cycle de formation est assuré par Fidroit. Je l'explique, Olivier, ou... Alors, ce cycle de formation qui est assuré par Fidroit, il va être là pour permettre aux collaborateurs d'acquérir les fondamentaux de la gestion de patrimoine et surtout de pouvoir progresser en matière commerciale pour avoir une plus grande efficacité commerciale et mieux vendre leur offre. Donc, on va vraiment ici insister sur le fait qu'on va mettre la technique patrimoniale au service, oui, du commercial et de la relation client. C'est vraiment là l'objectif de la première année de cette formation diplômante. Et puis ensuite, l'OREP prend le relais sur le deuxième cycle, je dirais, la deuxième année de cette formation, qui est destinée là uniquement à ceux qui ont passé le premier cycle auprès de Fidroit. Et nous avons pour objectif ici d'accompagner les collaborateurs un peu plus loin dans la technique patrimoniale, dans l'apprentissage scientifique, vers un niveau d'expertise plus poussé. Voilà vraiment l'objectif de cette formation que nous avons imaginée communément.
D'accord. Alors, on comprend donc une formation à 4 mains, surtout sur une durée quand même assez inhabituelle, hein, plusieurs années ou plusieurs semestres, un volume d'heures assez conséquent. Olivier, justement, on entend les mots commercial, on entend les mots technique, on sent qu'il n'y aura pas que du patrimoine. Est-ce que c'est une demande forte de la part des banques d'avoir justement de muscler leur jeu, de leur collaborateurs sur cet aspect ?
Bien. Oui, je dirais que c'est assez évident. On voit qu'il y a des mutations qui sont assez profondes, qui d'ailleurs n'ont pas toujours été à l'avantage des établissements bancaires. Lorsqu'on mesure une certaine forme d'insatisfaction de la clientèle sur les services qui sont ou qui ne sont pas justement rendus par les établissements bancaires, et il faut qu'ils s'adaptent à cette nouvelle exigence, cette nouvelle réalité. Mais il nous appartient également, nous, organismes de formation, de rester pragmatiques. Autant certains collaborateurs peuvent avoir vocation à devenir des ingénieurs patrimoniaux, autant la majeure partie des collaborateurs vont rester des commerciaux auxquels il est demandé de pouvoir contribuer à former du PNB. C'est une réalité. Et donc, il est important que nous-mêmes restions dans un cadre qui respecte cette réalité. Il ne s'agit pas de transformer fondamentalement l'action de ces collaborateurs, mais plutôt de voir comment ils vont pouvoir s'enrichir de nouveaux réflexes patrimoniaux pour faciliter leur action commerciale, de pouvoir procéder à des ventes dites intelligentes, de permettre que le client demain soit amené à les acheter plutôt qu'eux-mêmes est à vendre. Donc, il y a de notre part une évolution qui était nécessaire pour s'adapter en fait à un public qui est divers, qui agit de manière protéiforme. Et c'est d'ailleurs tout ce qui fait l'utilité de la collaboration avec l'OREP, puisque nous avons choisi d'intervenir chacun dans les domaines sur lesquels, a priori, nous excellons et qui permet alors de répondre, je dirais, à une configuration qui est adaptée à des besoins qui sont divers, avec un rythme en plus qui tient compte des contraintes professionnelles auxquelles chacun de ces acteurs est confronté, et donc de mieux personnaliser, je dirais, notre approche et nous adapter et d'être en harmonie avec la réalité des établissements bancaires. Sachant que demain... D'accord.
Oui. Olivier, juste j'ai une petite question pour Catherine. C'est vrai que quand on entend ce discours, on sait que les banques doivent monter en compétences. On sait que demain il y aura moins d'agences et que surtout aujourd'hui, dans un monde de plus en plus digitalisé, les clients finaux ont besoin d'avoir un contact précis. Vous disiez tout à l'heure le niveau aussi des clients a augmenté. Ils sont des fois surinformés. Ils ont besoin d'expertise en face d'eux. On a l'impression que cette formation elle est vraiment calibrée pour répondre à cette exigence de monter en gamme aussi des banques.
Oui, je crois que les banques ont parfaitement compris ça et ça fait des années qu'elles ont compris, elles insistent davantage aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde concurrentiel très fort. Hein. Aujourd'hui, le métier de gestion de patrimoine est exercé par diverses professions. Hein. Et les banques ont toute leur place, évidemment, et il faut qu'elles sachent trouver la bonne place. Et je crois qu'elles ont pris conscience que cette dimension, au-delà de l'aspect transactionnel, que cette dimension conseil patrimonial était vraiment essentielle à l'exercice de leur métier. Et de toute façon, les clients les ont poussés à le comprendre. Aujourd'hui, les clients ne se satisfont plus d'un simple conseil produit. Ils ont absolument besoin d'être accompagnés dans le conseil patrimonial, qu'il soit juridique, fiscal, social. Effectivement, les banques ont parfaitement compris ça et c'est aussi pour ça qu'elles font monter, qu'elles ont vraiment cette volonté très forte et affichée de faire monter leurs collaborateurs en compétences. Et on peut saluer ce mouvement parce que de toute façon, la concurrence est tellement forte qu'elles n'ont pas le choix que de s'engager encore plus fortement dans cette direction-là. Et on est là pour les accompagner dans cette direction. Et puis, je terminerai juste en disant, effectivement, les banques, et malheureusement, hein, on sait tous, connaissent vraiment un mouvement structurel très fort actuellement. Vous l'avez dit, hein, vous l'avez rappelé, fermeture des agences, baisse des collaborateurs. Et puis, les collaborateurs qui s'en vont aussi, parce qu'ils vont ailleurs, il faut savoir les retenir. Bien sûr. Notre ambition aussi.
Les collaborateurs, oui, excusez-moi, les collaborateurs qui eux-mêmes se disent à un moment peut-être sont tentés aussi par le conseil en gestion de patrimoine d'une manière plus poussée, plus pure, hein, notamment s'ils deviennent experts ou bien carrément sur carrément d'autres concurrents tels que les néobanques, hein, puisque effectivement on est dans un monde de plus digitalisé. On continue dans un instant, Catherine et Olivier, à parler de la formation d'une manière générale, des objectifs et puis des modalités pratiques aussi de cette formation pour ceux qui souhaitent la rejoindre, mais on va faire une toute petite pause et on va écouter le choix, c'est le choix d'Olivier, on peut pas être très galant, mais en tout cas il a choisi cette pause musicale, on se retrouve juste après. Thank you. Voilà la première pause musicale de cet hebdo patrimoine, Drift, hein, de Michael Logozar. C'est le choix de notre ami Olivier Rosenfeld. Olivier, vous êtes toujours là. Pourquoi ce choix ?
Alors pourquoi ce choix ? Ben, ceux qui me connaissent savent que je suis à 100 000 volts et que j'ai une énergie débordante. Et c'est finalement quand j'écoute cette musique, comme d'autres, vous m'aviez demandé de faire un choix. D'ailleurs, pardonne-moi Catherine, hein, je pensais que tu aurais cette même possibilité. En toute hypothèse, c'est un moment d'apaisement où le temps devient un peu plus élastique. Moi qui ai le sentiment de manquer toujours de temps, voilà, c'est un moment de calme, de sérénité.
C'est intéressant. Alors Catherine, c'est promis, la prochaine fois, c'est vous qui choisirez la petite musique. Tiens, la notion de temps, juste avant de reprendre notre sujet formation, mais c'est relié finalement parce qu'on n'a jamais eu autant de temps, surtout on pense à tous ceux qui sont dans des situations un peu particulières. Alors dans nos métiers, on va dire assurance, banque, métier tertiaire, les cols blancs comme on les appelle, il y a la possibilité de faire du télétravail, quoique si on a des enfants à la maison, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est aussi un moment, on l'a vu pendant le premier temps, où il y a eu un besoin d'information et de formation. Est-ce que vous avez senti, vous deux qui êtes à la tête de ces organismes, qui suivaient, qui accompagnaient, qui formaient tout au long de l'année des candidats, est-ce que vous avez senti ce mouvement également, cette ruée sur la formation ? Comment ça s'est passé, Catherine ?
Oui, alors bien sûr, on a senti ça, et je crois que s'il y avait un plafond de verre sur le digital avant la crise, on peut dire qu'aujourd'hui, il a sauté, il n'existe plus, et la formation a quelque part profité de ce mouvement-là, et ça, c'est très positif. Après, pour ce qui concerne l'OREP en particulier, alors nous, on est sur la formation diplômante. Donc, l'utilisation du digital, elle est très particulière dans ce contexte-là parce que quand on est dans une formation diplômante, surtout sur des niveaux de troisième cycle, hein, comme chez nous, les participants professionnels, ils recherchent deux choses. Un, c'est le savoir, les compétences techniques. Donc, ça veut dire que là, quand on a un diplôme à la fin, il a fallu, nous, qu'on assure la continuité pédagogique et c'était notre rôle. Donc, on a passé évidemment tous les cours en visioconférence. Mais il y a un deuxième élément et qui est moins présent dans les formations courtes. Dans les formations longues diplômantes, ce que viennent aussi chercher les participants, c'est un lieu d'échange, un lieu de rencontre avec les autres. Parce qu'on est vraiment là dans l'interprofessionnalité. Et cette richesse dans les échanges qui se font à la pause, dans les déjeuners, le soir, etc., hyper important en termes de réseau. Et ça, malheureusement, on a des difficultés, hein, évidemment, à pouvoir le maintenir. Et c'est la grosse difficulté sur la formation diplômante qu'on a à gérer en ce moment.
On va voir justement comment ça peut s'adapter. Olivier, sur l'avenir de la formation, alors on a eu cette semaine des espoirs sur un vaccin, mais on sait très bien que ça va pas être administré du jour au lendemain, que la maladie va pas disparaître, donc ces règles de distanciation vont continuer. On le voit, on est d'ailleurs, pour y être en plateau, vous n'y êtes pas, on est dans des studios virtuels. Comment ça se traduit dans la formation ? Quel est l'avenir de la formation ?
Alors juste, Fabrice, vous n'imaginez pas à quel point je suis frustré de ne pas être à vos côtés, pire encore pour Catherine, évidemment. Vous savez, Fidroit fait le choix déjà il y a 18 ans de trahir le digital, notamment avec notre outil Finnet. Et quelque part, sans dire que j'aurais été plus visionnaire que d'autres, je me félicite d'avoir fait ce choix parce qu'on le voit aujourd'hui que c'est un axe qui est déterminant. En réalité, sur l'avenir de la formation, je pense que nous devrons, un, de plus en plus, et je m'en expliquerai, séquencer les formations, deux, d'utiliser le figital, là aussi j'y reviendrai, d'améliorer la personnalisation et de travailler davantage l'expérience client, c'est-à-dire l'expérience apprenant. Quand je parle de séquençage, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a trois étapes dans la formation, les prérequis, le distanciel, et le présentiel. Je pense que nous serons de plus en plus amenés à travailler sur ces trois axes différents avec ce qu'on vient d'appeler des learning box, c'est-à-dire de permettre à des professionnels de pouvoir agir et de pouvoir apprendre de manière progressive avec un séquençage qui tient compte de leur propre réalité. Sur la dimension figitale, nous aurons de plus en plus besoin d'apporter du digital dans le présentiel et de l'humain dans le distanciel. Et là, ça, nous obligera, notamment lorsque nous serons sur du présentiel, à être plus dans le monitorat, dans l'interactivité, d'être concentré sur l'apprenant plus que sur le contenu qui lui aura été délivré en amont avec du blending learning où on sera sur du mix entre le e-learning, le présentiel, où nous aurons des formations asynchrones, c'est-à-dire on leur laissera la possibilité d'accéder à des bibliothèques, des contenus qu'ils pourront visualiser au moment où ils ont du temps pour effectivement réaliser cette approche. Il nous faudra travailler sur l'auto-évaluation, sur le scoring, sur la gamification, de telle manière que aussi les professionnels restent autonomes. Alors pardon, j'ai un écho. Ah, je ne sais pas s'il y avait un petit souci de micro. Et lorsque je parlais de personnalisation, là aussi, oui. Il va falloir que la technologie intègre les formations. Je veux parler ici de l'ancrage mémoriel, qui est une association entre l'intelligence artificielle et des sciences cognitives, où nous pourrons, grâce à l'intervention d'algorithmes adaptés, voir les éléments sur lesquels notre apprenant bute et de pouvoir délivrer des contenus à ses problématiques personnelles pour s'assurer d'un rythme d'avancement qui soit adapté à ces circonstances. Vous voyez, donc il y a de vraies évolutions, et sur l'expérience client, il faudra dépasser l'intervenant.
Ouais, je comprends. Alors, c'est très intéressant de effectivement rajouter de l'humain dans le distanciel et puis inversement. Oh, ça rejoint aussi tout ce qui est transition. Vous savez, on parle beaucoup de télétravail aujourd'hui, de se dire bah tiens, on va finalement changer aussi dans ces modes de travail. Peut-être qu'à l'avenir, plus de télétravail et puis finalement le bureau qui sera plus un bureau où on peut faire ce qu'on fait à la maison, mais où il y a vraiment une expérience et où on se retrouve avec pour faire du management, pour faire des ateliers, pour faire de la création. Catherine Orlac, vous êtes en phase là aussi. Est-ce que l'OREP regarde, j'imagine, ces techniques aussi? On voit de plus en plus de cours en ligne, des Coursera, des MOOC, etc. Est-ce que ce sont des choses que vous développez également au sein de l'OREP?
Alors, nous, on avait déjà engagé notre réflexion du digital il y a quelques temps, et on a lancé notre plateforme digitale fin 2019. Hein, donc, heureusement d'ailleurs, parce que ça nous a beaucoup aidé pendant la crise et ça nous aide encore pendant ce deuxième confinement. Simplement, encore une fois, je crois que la réflexion, je partage tout ce qu'a dit Olivier, mais pour moi, la réflexion doit être différente selon qu'on a à faire de la formation diplômante ou non. Sur les formats courts, aujourd'hui, évidemment, on a cette demande, la visioconférence qui évite aux gens d'avoir à se déplacer. Ils peuvent rester chez eux au bureau, c'est très facile. On consomme vite. Et ça, c'est le besoin d'immédiateté et qui est vite résolu avec les outils de visioconférence. Mais quand on fait de la formation plus longue, on est vraiment là dans une démarche personnelle d'apprentissage, où on va chercher des compétences qui exigent de toute façon du temps de présence, du temps de travail, c'est plus difficile. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas digital, au contraire, il en faut. Nous, c'est ce qu'on propose. Et sur notre plateforme, en fait, effectivement, on a des vidéos très courtes, des quiz, des jeux. Olivier parlait de gamification, c'est hyper important qu'il y ait ces activités pédagogiques. Mais notre conviction forte à l'OREP, hein, c'est que sur des matières techniques comme les nôtres, rien ne remplacera l'humain et rien ne remplacera le présentiel. Je crois que notre difficulté demain, notre enjeu demain, ce n'est pas une difficulté, on a déjà des solutions, l'enjeu de demain, c'est de trouver le bon équilibre entre le présentiel et le digital. Moi, nous percevons à l'OREP le digital uniquement comme un facilitateur pédagogique. Mais rien ne remplacera, encore une fois, le formateur, les échanges entre les participants. C'est notre conviction.
Alors c'est intéressant, surtout je fais le lien et je souris intérieurement parce que vous avez peut-être des ados ou des enfants autour de vous. C'est vrai qu'avec confinement 1, ils ont appris à travailler à distance, alors certains mieux que d'autres évidemment, mais je pense que là aussi ça va évoluer et que ça sera vraiment dans l'ordre naturel des choses puisqu'ils commencent aujourd'hui à l'école de plus en plus à travailler à distance, et je crois que demain cette formation continue, elle sera encore encouragée. Olivier?
Oui, il y a une véritable lame de fond. Je partage la distinction que fait Catherine entre la formation courte et la formation longue. Il y a des contraintes, de toute façon, dans la formation longue qui, de toute façon, peuvent être parfois difficilement compatibles avec presque un tout digital. Il n'en reste pas moins que nous voyons bien qu'il est nécessaire pour permettre à des professionnels de gagner du temps. Parce que nous savons tous que nous courons après le temps. Et l'outil que représente le digital sera un moyen pour nous adapter aux multiples contraintes auxquelles sont soumis les professionnels, et ce qui nous engagera en contrepartie lorsqu'on sera en face à face, en présentiel, encore une fois, d'être dans la mise en œuvre, d'être dans l'interactivité, de pouvoir apporter ce supplément qui permettra aux professionnels, une nouvelle fois, de les accompagner dans la mise en œuvre. C'est une nouvelle fois un leitmotiv chez nous, parce que pouvoir s'enrichir de données complémentaires, c'est ce que font les professionnels depuis 25 ans. Et ils ont
mené avoir une formation. Ouais. Bien sûr. Excusez-moi de vous couper, Olivier. Je voudrais aborder avant de terminer, puisqu'on arrive bientôt au terme de l'émission, quelque chose qui est fondamental. Tout le monde a vécu, en tout cas ceux qui sont passés dans les grands groupes, des formations qui sont de temps en temps imposées. C'est-à-dire que vous arrivez là, vous savez pas trop est-ce que c'était, vous aviez un volume d'heures, est-ce que c'était la RH qui devait écouler certaines formations. Il y a un écueil à éviter justement. C'est les gens finalement qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent là. Alors évidemment, c'est pas tout le monde. Il faut que ça soit positif, mais c'est l'écueil aussi d'avoir une formation adaptée au bon profil, au bon moment, au bon endroit.
Catherine, tu veux...
Oui. Alors, je crois que c'est essentiel.
Ce que je veux dire, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Ça, alors, vous, j'imagine que c'est un investissement, hein, de toute façon, pour les établissements qui font appel à vous. Quel est l'écueil, justement, de parce que ça peut être presque contre-productif d'avoir des gens qui sont Bac plus 2, qui sont commerciaux, donc ils doivent quand même produire des choses qui, finalement, sont dans un environnement, c'est vrai, qui va les faire monter en puissance. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on leur demande à un certain moment?
Mais je crois que l'enjeu essentiel de la formation, surtout quand elle est longue, c'est bien entendu que toute personne qui se forme ait elle-même son projet personnel et qu'elle comprenne pourquoi elle se forme. Et c'est, je crois, tout l'enjeu justement de notre formation, et c'est en ça qu'elle est intéressante et innovante, c'est que on a vraiment réfléchi deux cycles différents, comme Olivier l'expliquait tout à l'heure. Tout le monde ne se forme pas pour les mêmes raisons. Il y a des personnes en banque qui vont être destinées à être ingénieurs patrimoniaux. Cela, il faut qu'on les emmène jusqu'à un bac plus 5 avec une technique patrimoniale très forte. Alors qu'il y en a d'autres qui vont être spécialisées dans la relation commerciale, où on va placer la relation client au cœur du métier. Et cela, on a besoin de leur apprendre les fondamentaux de la gestion de patrimoine, bien sûr, mais pas jusqu'à un niveau expert, parce que tout l'enjeu pour eux sera justement de capitaliser sur la force commerciale. Et c'est tout justement l'objectif de ce premier niveau dans notre formation. Et je crois que ce que vous disiez est très juste, c'est que il faut que l'apprenant est consciente de son objectif, et dès lors que la formation est adaptée à cet objectif, donc c'est nous en amont qui devons travailler justement à faire du sur-mesure, je crois que tout le monde est gagnant.
Bien sûr. Olivier, on va bientôt conclure cette émission et donner toutes les infos pratiques, puisqu'il y a un site internet. Qu'est-ce qu'on peut dire là pour résumer, pour ceux qui nous ont écoutés et suivis pendant cette demi-heure? Ce collaboratoire, il destiné, alors on a bien compris à qui il était destiné. Est-ce qu'il y aura d'autres d'ailleurs, peut-être collaborations de ce type entre vos deux organismes?
Oui, très exactement, Fabrice. C'est vrai que le collaboratoire, c'est important de le rappeler, s'adresse à tous les professionnels. On vient de parler de la formation à destination des banquiers, et ce qui est plutôt très heureux pour nous l'avons constaté aussi bien Catherine que moi, que beaucoup de professionnels, au premier rang desquels les professionnels libéraux qui constituent notre cible aussi historique, nous a demandé d'ores et déjà de pouvoir leur proposer demain des formules qui leur soient adaptées, et nous le ferons avec beaucoup de bienveillance, parce que nous sommes dans une démarche, je dirais, collaborative. Et ce collaboratoire, précisément, il est aussi l'illustration que la formation n'a pas beaucoup de sens si les professionnels ne peuvent pas ensuite s'exprimer convenablement. Donc, ce collaboratoire, ce doit être aussi un lieu de réflexion, d'échange ouvert avec les professionnels que nous solliciterons pour déterminer quels sont les chantiers qu'il conviendrait de mettre en œuvre pour faciliter leur action ultérieure. Ça peut être la problématique de la place du conseil, de l'interprofessionnalité, ou des chantiers qui supposeront une action, en ce compris politique, pour faire avancer un certain nombre, je dirais, de chantiers, de dossiers, là encore, qui faciliteront l'exercice de leur métier.
Ouais, on l'a compris, hein, la collaboration, c'est aussi bah, finalement le client ou les clients finaux. Catherine Orlac, on vous laisse le dernier mot. On rappelle le nom du site internet, donc orepfidroit en un mot -collab.com hein, pour tout savoir de cette formation banque assurance avec les deux niveaux. Je le disais en conclusion, c'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses hein, et merci d'avoir partagé votre vision justement de la formation. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter là pour cette fin d'année qui arrive et puis pour l'année prochaine, est-ce qu'on va avoir on va continuer sur ce mode-là en figital?
Écoutez, je pense qu'on espère tous que la période que l'on vit dure le moins longtemps possible. Malheureusement, je crains que nous ayons à le vivre encore quelques mois. En tout cas, retirons le positif de tout ça, c'est que ça nous force tous à avoir des réflexions toujours pour améliorer les pratiques, que ce soit les pratiques en formation ou les pratiques professionnelles. Et je pense que ça a toujours été l'ADN commun de l'OREP et de Fidroit que d'accompagner les professionnels du patrimoine dans leurs pratiques au travers de la formation, au travers de divers outils. Alors, retenons ça. On a des communautés respectives, hein, tant à l'OREP qu'à Fidroit, au travers de nos clubs, qui nous permettent d'entendre les problématiques et les souhaits des gens qui sont passés chez nous. Je crois que notre rôle, c'est de les faire travailler dans l'interprofessionnalité, toujours avec un leitmotiv, c'est on défend un métier, on défend pas une profession, on défend un métier et on veut faire en sorte que l'ensemble des professions aient cette vision commune du métier. Voilà, et c'est notre rôle de les accompagner dans cette voie-là.
Merci en tout cas à nos deux invités du jour, Catherine Orlac, présidente de l'OREP, Olivier Rosenfeld, président de Fidroit. Et moi, ce que je vous souhaite, c'est que vous continuez bien évidemment votre rôle de formateur. Voilà, la connaissance, on essaye aussi à notre niveau chez Radio Patrimoine d'y contribuer. Et puis, c'est surtout de vous retrouver en physique le plus rapidement possible. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Théo Benoît-Hambourg d'avoir réalisé cette émission. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.